en avant de moi pour sa tournée dans le comté. Parce que c'est fini, Queen's Park. Merci, on ferme les livres. Stéphane Sarrazin, qui est député provincial de Glengarry Nord et Prescott Russell, qui est avec nous. Tu viens passer la prochaine heure avec nous. Bonjour, monsieur le député. Comment ça va?
Ça va super bien. Puis vous autres?
Ça va super bien. Il fait chaud, il fait beau. C'est fini, toi, de ton bord, là?
Ben, le mot fini, c'est toujours okay. Un mot qu'on aime
la
pas.
La chambre.
Oui, c'est ça. On a fini de siéger en chambre, mais on va être à Toronto. On a toutes sortes de comités, toutes sortes avec les, on a encore nos ministères, hein, donc on a beaucoup de choses à travailler avec les ministères. Donc pour moi, c'est le ministère des petites entreprises et le ministère des Affaires francophones. Donc je retourne à Toronto la semaine prochaine. Mais oui, en chambre, c'est terminé pour l'instant, puis ça fait du bien. Là. On arrête les débats, puis tout ça, puis on commence à se concentrer, à aller voir les gens, puis à savoir qu'est-ce qui sont les priorités pour les gens. Donc c'est le fun l'été.
À reconnecter avec le monde.
Exactement.
De ton comté, de ta circonscription, puis tu reviens après ça, puis tu as une meilleure idée un peu du pouls de la population. Ben des choses à jaser toujours. Ce matin?
Toujours.
On va jaser, je veux qu'on jase la LCBO, c'est tout à fait récent. On peut parler des médecins, parce qu'on a, t'as réagi à la nouvelle que moi et Élise, on a jasé tantôt sur la Colombie-Britannique. Mmh. Et tu vas amener un peu ton grain de sel là-dedans. Jaser également de cette rumeur d'élection. Je sais pas trop ça part de où. Je sais bien que tu vas me dire je peux pas te dire grand chose, mais c'est pas grave, faut aborder ça. Toutes sortes de trucs également qu'on peut jaser dans la prochaine heure. En musique maintenant, Don't Stop Till You Get Enough, c'est Michael Jackson à GoFM. On revient avec M. Sarrazin après. Bon matin.
Go
à GoFM.
GoFM.
Ça part bien le matin.
Ça part bien le matin.
Bon, à 7h17, mercredi 19 juin aujourd'hui, je vous souhaite un excellent début de journée, l'Est ontarien, Mathieu, Élise. Tu salues Élise.
Salut.
Et notre ami Stéphane Sarrazin qui est avec nous pour la prochaine heure. Monsieur Sarrazin, on va commencer avec les potins. Aime ça les potins. Le croustillant, les potins. Explique-moi, là. C'est parce que il y a une rumeur qui circule en ce moment dans certains médias. On avancerait le fait que on envisage peut-être du côté du gouvernement Ford de déclencher des élections de façon anticipée. Et là, je voyais ça passer. J'ai dit, voyons, on t'a mis un peu plus que la mi-mandat, mais il reste quand même 2 ans. Là.
Absolument. Puis écoute,
qu'est-ce qui se passe? C'est-tu vrai ça ou c'est pas vrai? Là?
Une rumeur, comme tu dis, c'est une rumeur. Donc,
puis
écoute, on peut pas dire que, tu sais, même en tant que nous, du Parti conservateur, il y a jamais personne qui a dit on parle d'élection. Puis quand l'heure va arriver, quand le grand chef va décider qu'il y a une élection, mais je pense que qu'est-ce qu'on pourrait voir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont. Tu sais, les gens se mélangent avec le fédéral puis le provincial, puis je pense que je voudrais que on aimerait ça peut-être faire une élection avant une élection fédérale, parce que là, les gens sont tellement mêlés. Moi, je me rappelle cogner aux portes, puis pendant les élections de 2022, puis tu sais, j'ouvre la porte, mon nom est Stéphane Sarrazin du Parti conservateur de l'Ontario. « Ah oui, je suis assez content que je vais voter contre Trudeau, mais c'est parce que... »
Ouais, t'es pas à bonne place.
Non, c'est ça, exactement. Donc, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens.
Ils sont mêlés.
Ben oui, absolument. Donc, je sais
ben
pas,
là,
dire, c'est des rumeurs pour l'instant, mais on sait jamais, parce que des rumeurs, habituellement, des fois,
de vérité,
quand...
qu'on dit, là.
On sait jamais qu'est-ce qui peut arriver.
Bon, ben, parfait. Donc, on comprend que c'est pas écarté comme scénario, mais c'est pas très, très clair encore, là.
Non, pour sûr.
OK. Chose intéressante en Ontario, pour de vrai, finir là-dessus un peu sur ce sujet-là, mais puis c'est un de mes techniciens qui me dit ça. Une couple de mois passés, quand on faisait les studios ici, puis on parlait un peu de politique, et là, il riait un peu en disant « Ah, les Ontariens! »
Dans le sens?
Généralement, il dit « Quand les Ontariens votent au provincial pour des conservateurs, au fédéral, ils vont voter pour des libéraux. Et quand ils votent pour des libéraux provinciaux, ils vont élire des conservateurs au niveau fédéral. » Il disait, moi, si j'étais Doug Ford, je regarderais ça avec un œil attentif. Je suis parti à rire. Je dis, ben, sais-tu quoi? C'est pas si faux que ça.
Ouais, c'est ça, c'est pour ça que
je comprends pas. Est-ce que c'est parce que les Ontariens n'ont pas de stratégie ou parce que c'est un balance du pouvoir?
Ou sont mélangés.
Ou c'est une balance du pouvoir? Ben, mais écoute, si je pense. La balance du pouvoir pourra avoir un certain sens. Tu sais, tu dis.
Ouais.
Ben, ça va venir rebalancer la patente. Tu sais, comme aux États-Unis, tu vois souvent une partie, tu vas avoir une chambre qui est démocrate puis l'autre qui est républicaine, puis tout se balance entre ça. Dans ce cas-ci, je pense juste, je sais pas, je trouvais ça particulier. Puis je lisais également par-dessus ça, l'autre premier ministre qui a fait ça, des élections anticipées, ça a amené Bob Rae au pouvoir par la suite.
OK.
Ça a pas bien été, là.
Écoute, moi aussi, je l'ai entendu, cette histoire-là que le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial, c'est souvent un parti...
adverse.
Adverse, exactement. Mais écoute, sur son recul dans l'histoire du Canada, ouais, à quelque part, il y a eu deux partis libéraux ou deux partis conservateurs au fédéral et au provincial. Puis je pense pas... Je pense que si nous, on décide d'aller en élection... plutôt ou en 2026, parce que vraiment, on parle de juin 2026 qui seraient les élections normales, notre terme. Mais je pense qu'on a notre feuille de route, puis je pense qu'on va pouvoir se tenir debout derrière notre feuille de route. Puis je pense que les gens, on a beaucoup à démontrer qu'est-ce qu'on a fait, le progrès en Ontario du côté économique, du côté environnement, avec l'énergie et tout ça. Donc je pense que ça va être très facile vendre notre salade. Moi, je dis toujours, je suis passionné par qu'est-ce que notre gouvernement fait quand ça vient au développement économique et au développement résidentiel. Tu sais, on le voit, on est 16 millions d'habitants, la plus grosse province de l'Ontario. Puis, il n'y a pas longtemps, il y a 30 ans, on était peut-être 2 millions de plus que le Québec. Aujourd'hui, on est le double du Québec. Tu sais, donc, à quelque part, on veut créer l'environnement pour emmener des entreprises ici, puis je pense qu'on fait un excellent job, puis ça sera à nous autres de démontrer qu'on a la confiance des gens, puis qu'on continue à travailler. Tu sais, c'est toujours les priorités quand on cogne aux portes, puis la dernière fois, c'était le coût de la vie, puis le manque de logement, puis les infrastructures, donc on continue à travailler là-dessus, puis je pense qu'on fait une bonne job.
LCBO. Donc, on a appris hier, possible grève, mandat de grève à 97% qu'a obtenu le syndicat des 8000 employés de la LCBO, ceux qui ont voté, évidemment. De ça, on a dévoilé hier la date. Donc, si grève il y a, 5 juillet serait la date fatidique si jamais on ne vient pas à bout de s'entendre avec le syndicat. On parle de salaire, bien évidemment, comme dans toute bonne négociation. Conditions de travail des employés de la LCBO en ce sens où tu as beaucoup de temps partiel, vraiment pas beaucoup de temps plein, puis bon, ça vient avec certaines problématiques. Et autre point, et celui-là, je pense que ça. On l'avait comme un peu vu venir. Hein? Privatisation. Donc, on s'oppose, entre autres, bon, à toute la privatisation, mais un point plus précis qu'a souligné le syndicat hier, les prêts à boire dans les dépanneurs.
Ben,
ça n'a pas fait leur affaire.
Exactement. Puis si tu es quelqu'un qui travaille à LCBO puis tu vois qu'est-ce qui s'en vient avec les dépanneurs, tu dis c'est sûr que les LCBO va perdre un peu de clients puis les gens, ça va être plus facile d'acheter l'alcool dans les dépanneurs puis tout ça. Donc tu te dis, sont pour aller en négociation, demander des meilleurs salaires, on va le demander tout de suite avant que les changements soient faits. Puis tu sais, c'est intéressant de parler parce que souvent les gens arrivent à moi, puis je veux juste le dire ici, on parle de, le gouvernement 225 millions pour pouvoir vendre la... Tu sais, c'est qu'est-ce qu'ils ont dû payer à Brewers Retail.
Ah, l'entente.
L'entente,
oui, oui.
Tu sais, puis là, les gens disent, comment est-ce qu'on peut justifier dépenser 225 millions? Ben nous, on peut vous dire d'avance que ça va générer 4 fois ça comme profit, parce que les dépanneurs, puis les petits magasins, les petits supermarchés, eux autres, ça va être incroyable pour eux autres. Il va avoir... ça va boomer, puis les revenus qui vont sortir de ça, parce que, écoute, ça fait des années que les gens veulent ça, puis ça fait des années que ça existe au Québec, puis les gens disent, ouais, mais il restait un an au contrat, mais c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a pas, il restait un an, mais il y avait des négociations à faire aussi dans un an, parce que t'arrives pas au bout d'un an puis dire, OK, aujourd'hui,
on
les bouteilles, tu sais, parce qu'on le sait, le Brewers Retail, c'est eux qui gèrent les bouteilles vides, le recyclage, tout ça. Donc, il y avait une transition, puis on pouvait pas attendre à la dernière journée à dire, wow, on y va, puis on change tout le système. Donc là, il y a bien des choses. Puis on a vu même, tu sais, les beer stores qui vont commencer à pouvoir vendre des billets d'OLG. Donc ça va des deux bords. On a donné un petit peu de choses au beer store, au LCBO. Puis là, on va donner la possibilité de vendre la boisson. Puis écoute, il y a tous les petits dépanneurs de petits villages. Tu sais, quand tu reçois de la visite, là, un dimanche après-midi, puis là, tu dis, oh my God, j'ai pas de bière dans le frigidaire, puis mon beau-frère, il boirait deux bières. Je vais aller au dépanneur du coin, je vais acheter deux bières. Ben, va probablement acheter un chip, puis des 6,49, puis peut-être d'autres choses. Puis ça va générer des profits pour ces petits magasins.
Ça va ramener de l'achalandage dans nos dépanneurs, ça, c'est sûr. Puis là, on parle de dépanneur, mais les autres magasins aussi. Nous, je vois pas pourquoi l'épicerie pourrait pas en profiter.
Exactement.
Puis Costco. Pourquoi Costco ne va pas en vendre?
Puis écoute, là, les épiceries vont peut-être vendre la bière au cost pour ramener les gens chez eux. Fait que il y a bien des gens qui vont en bénéficier. T'sais. Nous, on le voit parce qu'on est ici aux frontières du Québec. On voit les gens
qui viennent acheter
le vin au LCBO puis les Ontariens qui vont acheter la bière à Grenville. Donc c'est
Gatineau,
drôle.
Au Costco là-bas, puis ils vont s'acheter une caisse de 60. Là.
Moi, je suis victime du LCBO à Hawkesbury parce que j'habite proche de là. Donc, mon chemin, je pourrais dire le vendredi, là, j'essaie de ne pas passer topeux 17. C'est des plaques du Québec.
Non, je comprends.
Je suis victime, je pense pas par là.
Mais ta réaction face à ce lever de bouclier-là du syndicat?
Ben écoute, je pense qu'eux, ils ont regardé là, qu'est-ce qui s'en vient. Ils se sont dit, si on veut négocier, c'est le temps de négocier, parce qu'un coup qu'il va y avoir les changements qui vont être faits, puis qu'il va y avoir l'alcool, va être peut-être qu'ils vont être moins en mesure de négocier. Tu sais, je pense que la LCBO veut pas. Personne va fermer, mais à quelque part, si tu redistribues les ventes à travers les supermarchés, puis il va y avoir des changements qui vont se faire.
Mais les spiritueux restent quand même exclusivement à la LCBO.
Oui, mais quand même, il va y avoir des... Tu sais, on voit déjà qu'il y a des genres de dépanneurs qui ont des ententes avec le LCBO. Puis
ils ont du fort, oui.
Oui, c'est ça. Fait qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses. Puis peut-être que ça va être plus facile, tu sais, à l'LCBO, avant que le gouvernement alloue les dépanneurs à vendre la boisson, l'LCBO pouvait être un petit peu plus sélectif à dire, OK, je vais travailler avec toi, le dépanneur. Tu sais, on en voit bien des dépanneurs qui ont l'LCBO incorporé. Mais là, peut-être qu'ils vont vouloir négocier un peu plus parce que... Tu sais, c'est plus facile pour eux autres. Ils pouvaient être un peu, comment je dirais ça...
Ben, ils sont dans une situation monopolistique.
Exactement. Ouais. Donc, ils pouvaient choisir, ils pouvaient être en mesure de dire oui ou non, on veut pas, puis être un petit peu...
Moi, j'étais, disons, très, très jaseux avec une des places comme ça dans notre belle région. Je ne la nommerai pas, là, je ne veux pas mettre dans le trouble. Qui, justement... a fait tout le processus pour avoir, elle l'a réussi, là, avoir la LCBO dans son commerce. Le seul commerce de l'endroit.
Okay. Okay?
C'était une personne qui gérait le magasin du coucher ou du lever, de l'ouverture à fermeture. Elle couchait quasiment en dessous du comptoir. La paperasse, les demandes, a pu finir. Les demandes de clarification, les objections, puis pas. Ça y a pris 6 mois avant d'être capable de vendre une première caisse de bière puis une première bouteille de vin.
Mais quand
c'est sûr
exclusif,
que quand t'es en situation monopolistique.
Exactement. Donc, tu peux dire, OK, tu peux, comment je dirais, être plus sélectif puis être plus difficile avec.
Le sourire peut être plus difficile aussi.
Exactement.
Parce qu'on a juste à penser tout le monde, le modèle de. Pensez au bon moment où Bell Canada était ton seul fournisseur possible de téléphone. 40 ans passés. Tous ceux qui ont vécu l'ancien modèle de Bell Canada ont ce souvenir un peu.
Amère.
Désagréable,
ouais.
quand ta facture au bout de 6 mois montait de 12$ par mois, puis là, tu te rappelais pas pourquoi, mais il y avait une promotion temporaire qui durait juste dans cette...
Ouais, exact.
Non, je pense que ça, justement, c'est bon de briser la monopole sur l'alcool. Puis écoute, il y a des gens qui disent, OK, tu sais, comment responsables vont être les gens quand c'est plus... accessible aux gens, ben écoute, ouais. Québec, ça fait combien d'années que ça dure, puis est-ce qu'on peut dire que c'est un trouble, c'est un problème tant que ça, tu sais, je veux dire, ça, les gens,
c'est la
moi, je dis toujours, quand t'es adulte, tu peux boire de l'alcool, ben t'es assez adulte pour savoir quoi faire avec, puis quand la boire, puis quand aller t'en procurer. Donc, tu sais, je dis toujours, faut faire confiance aux Ontariens, c'est pas des enfants, là, tu sais.
Que dire? Ben, c'est ça. À un moment donné, il faut que tu fasses confiance aux gens. Puis oui, tu peux réinvestir dans un peu plus de programmes de prévention. Tu sais, Mad Canada peut être un peu plus présente. Mais ultimement, ceux qui le font raisonnablement vont probablement continuer de le faire de façon raisonnable. Puis ceux qui étaient déjà à problème le seront tout autant. Là.
Je pense que ça va être le fun. Tu sais, des fois, tu dis, hey, il me manque une pinte de lait, puis tu vas à deux coins de rue au petit dépanneur chercher une pinte de lait. Mais des fois, la visite arrive à la maison, puis j'ai plus de bière, puis je vais aller au dépanneur. Mais
je pense pas que les gens vont boire plus qu'ils boivent en ce moment.
Non.
C'est un peu comme la légalisation du pot.
Exactement.
Ouais, moi, je fumais pas de pot.
J'en fume pas plus.
C'est ça.
Non,
exactement.
Mais même s'il y en a à chaque coin de rue, là, des magasins de vente de cannabis.
Et puis, y en a-tu?
J'ai jamais tourné le coin pour aller là.
Ça n'a pas d'allure.
Ça m'intéresse pas.
Je pense à Toronto, là, sur des rues. Là.
Ben, Montréal. Chemin Montréal, Ottawa.
Ben oui.
As-tu passé récemment sur Chemin Montréal, Ottawa?
Ah oui.
C'est plein.
T'as deux magasins. L'équivalent de Cash Money et des magasins de vente de produits du cannabis. Là. Bon, en tout cas. Parfait. Ça, on va jaser dans quelques minutes. On peut jaser de la santé. Et jaser aussi de d'autres trucs qui peut-être un peu plus locaux.
Un peu de tout, comme on dirait.
Un peu de tout dans les prochaines minutes avec le député provincial de Glengarry Prescott Russell, Stéphane Sarrazin, qui est notre invité pour la prochaine heure.
Dans l'Est ontarien. Dans l'Est ontarien.
Ça part bien le matin.
Ça part bien le matin.
Jusqu'à 9h.
GoFM!
Bon, on est le 92 ans GoFM. On est à 7h40, mercredi 19 juin. On passe les prochaines minutes en compagnie de notre député provincial de Glengarry Prescott Russell, Stéphane Sarrazin. Un sujet qui a fait jaser moindrement un peu ces derniers jours. Les autobus scolaires, Stéphane. J'imagine, parce que là, le consortium de transport scolaire nous ont dévoilé il y a deux semaines, pour nous ont dévoilé leur nouvelle directive qui entrera en vigueur lors de la prochaine année scolaire, où on dit « Bon, en raison des directives du gouvernement provincial, voilà les nouvelles règles qu'on met pour déterminer si oui ou non tu as droit au transport scolaire. » On a vu des trucs du genre plus du double entre la maison et l'école. Avant d'avoir droit à un autobus scolaire également, les distances entre la maison et l'arrêt d'autobus qui ont grandement augmenté. On a même, je pense au niveau secondaire, je pense que c'est rendu 3,2 km avant d'avoir droit à du transport scolaire au niveau de la distance entre la maison et l'école. Dans notre cas précisément, on est dans un milieu rural. Comme je disais ce matin-là où la nouvelle est tombée, marcher 1,5, 2 km, je sais pas moi, tu descends la rue Pitt à Cornwall où c'est tout super beau trottoir, les lumières, tout ça, ou la rue Main à Hawkesbury, tu sais, tu traverses la rue Main, c'est super sécuritaire, ça c'est une chose. Longer la route 17 ou la route secondaire de l'Orignal, c'est un autre paire de manches. Là. Évidemment, j'imagine que ton bureau, il t'a reçu 2-3 appels, là. Parce que au niveau du consortium, quand on a annoncé la nouvelle, la seule chose qu'on a dit, c'est c'est la province.
Donc, exactement. Je pensais que tu étais pour me parler des nouvelles écoles qu'on a annoncées.
Mais écoute,
on peut y aller tout de suite avec le transport scolaire.
On va y aller avec le transport, puis oui, on va parler des écoles après. On va y aller avec le positif après.
Non, écoute, on le sait, puis ça fait pas depuis hier, ça fait pas depuis qu'on a eu l'annonce du consortium. Puis écoute, moi-même, j'ai une fille à l'école secondaire de Plantagenet, je l'ai eu l'annonce du consortium, puis ça fait plus longtemps que ça qu'on en parle avec le ministère de l'Éducation, que la réalité en milieu rural est différente de Toronto. Puis d'Ottawa, tu sais, Ottawa, les jeunes ont des passes pour les autobus de ville, pareil à Toronto. Puis comme tu dis, ici, t'as des villages qui n'ont pas de trottoir, puis l'hiver, ça prend tout pour pouvoir marcher dans la rue, puis c'est vraiment dangereux. Donc, on travaille avec le ministre de l'Éducation à dire, La réalité chez nous, en milieu rural, elle est différente. Écoute, il y a eu, je pense qu'on avait des belles discussions avec le ministre Lecce, puis là, ben, il y a eu un petit changement, un remaniement ministériel. Donc, mais je suis content parce que, ben, je suis pas content parce que je dirais pas que je suis content, mais je dirais que le ministre Lecce faisait un travail incroyable. Mais le nouveau ministre de l'Éducation, j'étais son adjoint quand j'étais l'adjoint du ministre de l'Énergie, puis c'est quelqu'un de l'Est ontarien. Puis, je dirais même que sa conjointe est adjointe directrice à l'école. Donc, je pense que... Puis aussi, il est en milieu rural. Donc, la réalité, on va se mettre en jaser, justement, et à continuer à parler avec le ministère de l'Éducation. Mais pour dire... Si on regarde, il semblerait, parce que à première vue, là, on pose des questions au ministre de l'Éducation, est-ce que c'était une coupe de budget? Il dit non, à chaque année, le budget augmente quand ça vient au transport d'écoliers. Puis là, on se dit, OK, ben tu sais, on le voit, il y a plus en plus de petites minivans sur la route. Ouais. Ça coûte très cher, le transport d'étudiants. Mais écoute, moi, je dis, la priorité, tu sais, parce qu'on peut pas dire, on fait des investissements records en éducation, mais on sacrifie la sécurité des enfants. Parce que ça ferait pas d'allure. Puis écoute, on le dit, là, on fait des investissements records en éducation. Donc, faut faire sûr de la sécurité des enfants soit au centre de tout ça. Là, qu'on continue à travailler avec le nouveau ministre, c'est sûr que lui, il vient de revenir de Bucarest cette semaine. Il était là parce que il était là avec encore des missions avec le nouveau ministre d'énergie. À visiter des centrales puis avoir des ententes avec d'autres pays pour donc mais là on va recommencer les discussions puis il faut faire de quoi parce que écoute la priorité c'est la sécurité.
Mais le consortium qui met tout le blâme sur la province parce que c'est un peu ce qu'on a remarqué là. Ça a été leur réponse. Leur seule réponse, c'est vrai ou...
Ben, c'est pas, ça c'est, peut être, il n'y a rien de plus facile que blâmer la province puis le fédéral, ça. Puis on... ouais, je veux dire, en fin de ligne, le conseil scolaire et le consortium ont le mot final sur qu'est-ce qu'ils veulent faire. Puis il va y avoir du cas par cas. Il n'y a pas un enfant qui va partir... puis qui va marcher sur le long de la route 17 pour aller à l'école. Tu sais, donc c'est pas juste une question de, on dit en dedans de tant de kilomètres, t'auras pas de service. On laissera pas personne marcher sur le bord de la route 17. Puis les conseils scolaires, écoute, t'as un consortium qui a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, donc ils vont analyser cas par cas, puis ils vont regarder est-ce que c'est vraiment sécuritaire, puis ils ont le choix de faire de changer ça, puis tu sais, moi je disais déjà, moi j'allais à l'école Saint-Victor d'Alfred, c'était l'école même qui gérait ça avec l'entreprise Le Duc Bosselin, qui était l'entreprise du village. Bon, ils envoyaient toutes les adresses des jeunes, puis OK, qui a besoin du transport, puis question sécurité, qui on va ramasser, qui va marcher à l'école, mais c'est encore aujourd'hui pareil, c'est juste que le consortium, mais là,
il gère
deux conseils scolaires, deux conseils, tu sais, donc c'est mais il y a de l'ouvrage à faire là-dedans, puis quand on parle de, tu sais, oui, on parle de 3 km, je pense pas qu'il y a personne qui va marcher 3 km pour aller à l'école puis pour prendre l'autobus. C'est vraiment les zones qu'on a établies. Puis, tu sais, je veux dire, quand tu établis une zone, il peut avoir une personne qui va être affectée comme qu'il peut en avoir 10, mais ça reste à déterminer. Puis, je pense que le consortium...
La réponse que tu donnes aux parents qui t'appellent?
Bien, on travaille. On continue à travailler pour avoir le financement. On travaille avec le consortium, les conseils scolaires. Puis, on va... tu sais, il y a une analyse qui va être faite. Je pense qu'il y a matière à regarder tout ça, les adresses de tous les gens, puis savoir combien qu'il manque à gagner en financement pour pouvoir rendre la chose sécuritaire. Puis là, ben nous, on va au ministre de l'Éducation puis dire, écoute, ça prend tant d'argent.
Et ça presse.
Parce que, tu sais, puis spécialement, écoute, là, on sait l'accident qui est arrivé à Rockland récemment.
Oui.
Tu sais, on a des villes qui sont en croissance. Puis, on doit s'adapter parce que, tu sais, on doit rendre ça plus sécuritaire. On l'a vu, nous, Alfred, quand j'étais maire, président, on a fait un genre de feu de circulation qui est tout simplement pour un crosswalk, tu sais. C'est tout simplement pour aller à l'école. Les gens disaient, un feu de circulation, Alfred, mais le but, c'est pour les écoliers de traverser. Puis, en plus d'avoir fait ça, on n'a jamais ôté le brigadier parce qu'on sait que... Il y a un auto qui peut passer sa lumière rouge, tu sais. Donc, je pense que les municipalités puis la province, on est axé sur la sécurité puis on va continuer à faire sûr que c'est sécuritaire pour les enfants.
Parlant d'éducation, on va aller du côté où là, tu as sûrement reçu 2-3 courriels de gens de bonne humeur. Dans ce cas-ci, précisément, Finalement, ça a été annoncé la semaine dernière, semaine d'avant. Ça fait deux semaines déjà. Nouvelle école secondaire à Clarence Rockland, public. Ouais,
c'était attendu.
Nouvelle école secondaire également qui pourrait quand même toucher certains de nos auditeurs du côté d'Orléans.
Oui.
Absolument. C'était vraiment une bonne nouvelle. On le sait, c'était attendu, là, cette nouvelle-là, ça fait longtemps. Puis cette année, on investissait le double qu'à l'habituel dans les constructions d'écoles. Donc, je suis content d'avoir justement poussé ça avec le ministre Lecce, puis de pouvoir faire l'annonce. Et ça, c'est la belle partie du député, pouvoir annoncer une école. Puis là, c'est pas la seule école qu'on a annoncée. Tu sais, on a annoncé une expansion à Saint-Thomas Aquinas, 5 oui. millions. Donc, on n'a pas le choix. On a une croissance ici. Puis, on tu sais, probablement que cette école-là, à Rockland, la journée qu'elle va être... on va faire l'ouverture, elle va être pleine. Mais qu'est-ce qu'on fait, au moins, aujourd'hui? On planifie... Tout de suite, la construction, il y a une planification qui se fait à une expansion. Tu sais, okay. C'est déjà tout dans les...
Ça l'aide ma question, en fait.
Ouais,
et tu m'as ouvert grand la porte.
Oui.
Une de mes questionnements, puis peut-être que tu vas me dire, oui, mais Mathieu, ça marche pas de même. Mais quand j'ai lu cette déclaration-là, justement, provenant de toi et également de la personne qui était responsable au CEPO pour la région de l'Est, OK? Quand l'école va ouvrir dans deux ans et demi à Rockland, les chances sont bonnes qu'elle soit déjà pleine puis qu'on va falloir mettre des portatives à côté. Ça, c'est la personne qui était responsable de la région de l'Est, là, au CEPO. Et mon grand questionnement a été, OK, mais ça, on le sait déjà, puis elle n'est pas construite. Pourquoi on fait pas des plans
je
en
Je me rappelle, je t'écoutais ce matin-là.
Quelle
est la réponse?
Ben, j'ai sorti des chiffres ce matin-là, puis j'ai oublié de les emmener ce matin.
Ah.
Mais je peux te dire que si à chaque projet d'école, puis là, je me rappelais pas à quoi que j'avais mis un siège d'école, OK? Parce que,
ouais.
Tu sais, si on parle de 36 millions de dollars pour une école à Rockland qui contient 350 sièges ou 340 sièges, je ne me rappelle plus.
À t'sais, Rockland?
Oui.
On était dans mon souvenir, on n'était pas à...
On n'était pas à 300, je pense.
Je pensais que c'était 700, moi.
Non, c'était 300 non. À
700, c'était
à
Orléans. C'était ouais. 700. Okay.
Fait qu'on parlait de 350
400 quelque chose,
sièges.
Me semble, d'abord.
Mais si... À chaque, parce qu'on a annoncé beaucoup d'écoles cette année, hein? Puis si à chaque école, on rajoute 100 sièges, bien là, à place d'être 1,5 milliard qu'on dépense cette année, bien c'est 2,5 milliards. Puis là, à un moment donné, ça ne marche plus avec le budget. Puis aussi, faut comprendre que dans toute l'histoire de ça, de la démographie, tu sais, je donnais l'exemple, puis là, j'ai plus les chiffres exactement, mais je pense que 10-15 ans passés, l'école de Wendover, il y avait 25 étudiants, puis il était pour la fermer, OK?
Oui.
Aujourd'hui, probablement proche de 200 quelques étudiants, 250, puis on a annoncé l'année passée une expansion.
Oui.
Donc, faut un peu regarder qu'est-ce qui se passe, parce que tu as des municipalités, puis honnêtement, je discutais de ça avec le township de North Glengarry, là, je dirais 3 semaines.
Ouais.
Il nous disait, écoute, on a besoin d'argent pour travailler sur nos systèmes d'eau et d'égout pour être en mesure d'avoir du développement sur le côté résidentiel. Puis il me disait, nous, là, on a une capacité d'école. On n'a pas une école qui est à capacité. Il y a des places de libre. Mais c'est ça la réalité, c'est qu'il y a des écoles, qu'il y a des places de libre. Puis il y a des écoles qui sont pleines, puis qu'ils ont des classes portatives. Mais c'est dur à gérer tout ça parce que Rockland, Russell, ça va vite, mais on sait jamais, ça peut tourner de côté. Puis tu sais, les prévisions, là, à moins que tu aies une boule de cristal, là, c'est bien dur à dire qu'est-ce qui va
non,
se passer.
Je sais.
Il y a beaucoup de facteurs. Donc, d'investir 100 sièges dans chaque école qu'on a annoncé cette année, parce que des écoles francophones, moi-même, j'en ai annoncé 6 parce que j'étais avec le ministère des Affaires francophones, oui. Avec Lecce, 3 downtown de Toronto, 3 écoles francophones oui. Downtown de Toronto. Donc, tu sais, on n'a pas le choix, mais qu'est-ce qu'on fait au moins, c'est qu'on est bien préparé à bâtir des additions à ces écoles-là et non plus des classes portatives dans le fond de la cour. Là, les projets sont
dans
en
des roulottes comme on voit sur des chantiers de construction là. OK. Donc la réponse à ça est plutôt dans le design qu'on fait de ces nouveaux bâtiments là. Ils sont déjà c'est déjà tout designé pour qu'on soit capable avec le moindre mal, d'arracher un bout de mur, puis de continuer sans avoir à faire des travaux excessifs.
Là. Très bonne façon de l'expliquer.
OK. Non, mais c'est okay. Bon. Tu vois, je comprends vite, mais il faut juste que tu m'expliques bien longtemps. On y va avec Right Here, Right Now en musique et on revient avec le député dans quelques minutes. On va Oups, j'ai fermé mon micro sans faire par exprès. Bon matin, l'Est ontarienne, t'as 7h53, mercredi 19 juin aujourd'hui. Il reste quelques minutes, monsieur le député. Parler peut-être vite fait, parce que tu as réagi à ce que moi et Élise, on a jasé ce matin, la Colombie-Britannique a changé sa façon de rémunérer les médecins de famille. Partout comme ailleurs au pays, les résidents avaient de la difficulté là-bas à avoir accès à un médecin de famille. L'Ontario, on ne fait pas exception. D'ailleurs, c'est un problème qui est de plus en plus présent. On voit entre autres certaines municipalités dans nos coins faire des campagnes de séduction. Tout simplement, Russell a commencé à en faire. Ça fait longtemps qu'on le fait du côté de Glengarry, où on donne des incitatifs, on fait des petites vidéos pour attirer des médecins chez nous. Cornwall le fait, ça fait 20 ans. D'ailleurs, on est en train d'étudier une nouvelle stratégie pour attirer plus de médecins du côté de Cornwall. Je voyais passer la clinique à Castlemaine avec une pétition qui demandait plus de financement provincial parce qu'elle ne vient pas à bout d'attirer des médecins de son côté puis d'être compétitive. On va tomber à seulement 3 médecins à la fin de l'été pour la clinique médicale de Castlemaine. Donc, on commence à avoir de plus en plus de problèmes en Ontario à attirer ou du moins à garder les médecins de famille en poste. On voyait en Colombie-Britannique le ministre de la Santé là-bas faire un peu la leçon aux autres provinces canadiennes en disant « Nous, on a changé notre modèle de rémunération. Donc, on prend en considération maintenant pas juste l'acte en soi, mais également le temps que le médecin passe à écrire des emails, puis à faire des suivis, puis des coups de téléphone, puis tout ça. » Et finalement, oui, ils sont plus payés, mais ultimement, on a remarqué une chose, ça nous coûte moins cher. Ça nous coûte moins cher parce que les gens sont moins dans les urgences. Puis, on vient à bout de régler les problèmes plus tôt que tard. C'est quand c'est tard que ça coûte plus cher. Donc, on sait que l'Ontario aussi, on est en négociation en ce moment avec les médecins de famille, justement, pour le modèle de rémunération. Puis, bon, table des négociations, ça va plus ou moins bien. Je pense réagir un peu à ça.
Ben, je pense que, tu sais, c'est toujours... Sans aucun doute que le gouvernement de l'Ontario fait du mieux qu'il peut pour justement qu'on ait plus de médecins. Puis écoute, on le voit, là, on paye les tuition fees de médecins qui veulent... Oui. On paye aussi pour qu'est-ce qu'on appelle les registered nurses, puis on paye pour les paramédics dans certaines régions. On essaye d'inciter les gens à aller dans les soins de santé, mais c'est des choses qu'on va voir les résultats dans... 5-6 ans. Tu sais, c'est pas des choses qui t'investis aujourd'hui, puis si t'as pas les ressources, t'as beau investir le montant d'argent que tu veux dans le système de santé, si t'as pas les gens pour travailler dedans, ça sert à rien. Mais je dois dire que quand qu'on parle l'Ontario, faut faire attention. Parce que, tu sais, souvent, qu'est-ce qu'on entend? On entend, il y a 2,5 millions d'Ontariens qui n'ont pas de médecin de famille. Mais 2,5 millions, c'est la moitié de la population de la Colombie-Britannique.
Qui sont, aux alentours de 5.
Tandis qu'ici, on est 16 millions. Donc, tu sais, c'est dur de se comparer à d'autres provinces parce qu'on a probablement la croissance que certaines... Annuellement, on a peut-être 500 000 personnes qui arrivent en Ontario, mais on a des provinces qui ont deux fois ça comme population. T'sais. Donc, c'est dur de se comparer avec... Puis c'est beau d'avoir la croissance, c'est beau de devenir une puissance économique, l'Ontario, puis tout le monde veut rester en Ontario, puis tout le monde veut venir en Ontario parce qu'il y a des belles opportunités, parce qu'on a un gouvernement stable, tout ça, mais ça crée autant de la pression sur le système de santé, sur le système d'éducation, puis même les infrastructures municipales. Tu sais, on a beaucoup de villages qui veulent prendre l'expansion, mais qui n'ont pas les capacités. Donc, on continue à travailler et investir. On sait les investissements records là, en tant que santé, en tant qu'éducation, mais est-ce qu'on va voir que ça va prendre du temps avant qu'on voit ces résultats-là? Tu sais, c'est tellement... Écoute, on pourrait en parler toute la journée là, du système de santé. Tu sais. Moi, je me rappelle, à l'époque, j'avais un vieux médecin que probablement beaucoup de gens avaient, là, Dr Bergeron, qui avait probablement 2500 patients.
Oh my God! Donc,
la question... Okay. Ben, je dis ça, tu sais, parce que je sais que déjà, c'est comme... moi, je me rappelle, il travaillait quasiment jour et nuit. On allait là à 9h le soir, tu sais. Puis aujourd'hui, tu sais, on a plus de médecins, dans le fond, mais ces médecins-là, ils ont peut-être 1000 patients à chaque. Puis je dis ça, il y en a peut-être qui n'ont 1500, il y en a peut-être qui n'ont 800.
Sans mettre un chiffre
exact. Mais ça change aussi, tu sais, parce que la façon... Tu sais, déjà, là, moi, je me rappelle, mon père travaillait 7 jours par semaine, 12 heures par jour. Mais aujourd'hui, les gens choisissent d'avoir une qualité de vie. Puis sacrifier un peu, dire, OK, il n'y a pas juste l'argent dans la vie. Donc, tout ça, ça reflète dans tous les secteurs, tu sais. Puis, écoute, souvent, tu sais, c'est très complexe. Il n'y a pas, que ça soit les médecins de famille, les équipes de santé familiale, il n'y a pas personne qui est facturé pareil, il n'y a pas personne qui est payé. Il y en a qui sont payés tant par patient, il y en a qui sont payés tant par visite. C'est très complexe. Puis, je pense que, en 2021, quand j'étais warden puis maire, je me rappelle, le ministère de la Santé avait entrepris, je te dirais pas en 2021, avant ça, en 2019, avant le COVID, avait entrepris des discussions avec tout le monde là, du côté municipal, des soins de santé, à dire... On veut restructurer, puis là, quand la COVID est arrivée, ben là, c'était des blank checks pour les vaccins, puis c'était comme ça, c'était la folie furieuse. Donc, tranquillement, tu sais, puis je pense que les gens sont pas au courant, mais il y a beaucoup de choses qui se fait aujourd'hui. Tu sais, tu peux aller voir ton pharmacien pour avoir des prescriptions, des infections urinaires, toutes sortes de choses que tu n'es pas obligé d'aller voir le médecin. Mais encore aujourd'hui, on parle aux gens, puis... ne savent pas vraiment ça, tu sais, c'est dur de vraiment informer les gens. On fait en sorte qu'il y ait toutes sortes de ressources pour rendre ça plus facile. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui disent chiale un peu parce que on donne l'opportunité au secteur privé de pouvoir facturer au même montant.
Ouais, ben c'est, j'allais là justement.
C'est sûr que tu peux aller au privé. C'est sûr que t'es capable de payer avec ta carte OIP. Maintenant, le privé peut t'offrir des services additionnels, tu sais, comme le Cadillac Treatment, que tu n'aurais peut-être pas au service public si tu es prêt à mettre de l'argent, mais là, les gens par la suite disent ça m'a coûté 1000$. Est-ce que tu as eu le même traitement que tu aurais eu dans le service public? Je pense qu'on fait tout pour justement désengorger les hôpitaux puis faire sûr qu'on n'attend pas un an pour des chirurgies qui sont importantes. T'sais. Donc, on essaye
toutes les possibilités. Il y a des gens qui souffrent pour de vrai. Là,
absolument, absolument.
Ta vie en dépend pas, mais c'est franchement inconfortable.
Exactement.
C'est toutes les histoires de hanches, entre autres. Là.
Exact, les hanches, les genoux, puis on le voit, on a l'option maintenant d'aller au privé. Puis, si tu dis au médecin, au privé, moi, je veux le même traitement que j'aurais à l'hôpital, qui serait couvert par OIP, bien, tu vas avoir le même traitement, puis ça va être facturé justement au ministère de la Santé avec ta carte de santé. Donc, je pense qu'on fait du progrès ce côté-là, puis de pouvoir... tu sais, souvent, on entend des gens qui disent « J'ai été 18 heures à l'urgence », mais peut-être parce que c'était pas vraiment quelque chose de critique, là, tu sais. Parce que si tu rentres à l'urgence, tu es en train de mourir, je pense pas que tu vas
rentrer. Famille.
C'est ça. Puis on est, honnêtement, dans cette région aussi, on est vraiment chanceux avec les hôpitaux, là. On parle de Glengarry Memorial, Alexandria, puis Hawkesbury. Veut dire, il y a des gens du Québec qui partent de Vaudreuil pour venir se faire soigner ici. T'sais, on est chanceux d'avoir ces hôpitaux-là.
Étonnamment, je vois beaucoup de gens aussi d'Hawkesbury partir vers Alexandria. Ah, j'imagine que les gens d'Alexandria vont vers Cornwall puis les gens de Cornwall vont vers Ottawa.
On va jamais dans notre secteur.
Ben, ça, c'est vrai pour bien des choses.
Ouais. Mais tu sais, il y a bien des progrès qui se font. Puis encore là, les gens ne savent pas. Les services qui s'offrent là, récemment, là, des services... additionnel qui s'offre à Glengarry Memorial puis à l'hôpital d'Hawkesbury. Moi, je parle souvent avec les directeurs généraux, puis ça continue à offrir plus en plus de services, puis on est vraiment choyés d'avoir ces hôpitaux-là.
Oui, parce qu'il y a un nouveau scanner, Alexandria, à mon souvenir.
Oui. Il va
puis
avoir...
Puis Winchester aussi, d'ailleurs. Il ne faut pas oublier Winchester, parce qu'elle est grandement utilisée aussi par les gens, entre autres, d'Embrun, Castlemaine-Limoges, mais Winchester... là aussi, il y a plein de progrès technologiques ces derniers temps. Donc, M. Sarrazin, pour conclure ce moment en onde, des longues vacances. Ouais, entre guillemets, parce que vous revenez en chambre juste à la fin octobre, non?
Je trouve ça tout le temps intéressant à entendre le mot vacances parce que.
Oui, je sais, tu me dis ça tantôt.
Oui, c'est ça.
Effectivement, je le sais, tu vas travailler fort.
Je pense qu'on travaille plus fort que quand on est assis en chambre à débattre, puis tu sais, les projets de loi qui vraiment. On jase, puis ça concrétise. Il n'y a pas grand-chose qui se concrétise. Mais là, on est vraiment ici, travailler à rencontrer des gens, à avoir des réunions avec nos associations, avec nos. Toutes sortes d'organisations qui offrent des services aux gens, puis on est ici pour vraiment visiter les gens puis savoir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux en tant que gouvernement pour eux. Puis moi, avec mon mandat, avec la ministre des entreprises, du développement économique, puis le ministère des Affaires francophones, ben je vais sûrement faire qu'est-ce qu'on appelle des consultations à travers l'Ontario auprès des entrepreneurs francophones, à savoir qu'est-ce que notre gouvernement peut faire pour améliorer le sort pour les entreprises. Donc, on veut créer les meilleures conditions possibles. Donc, on a bien du pain sur la planche.
Ça sera un peu ton...
Le calendrier, il est vraiment... Là, quelqu'un qui regarde ça, là, ça a l'air d'une carte de bingo que carte pleine. Là. Donc,
la première carte pleine à 1 500 $ ici à GoFM. Donc, c'est ça. Tu vas avoir ton été déjà bien rempli. Là.
Absolument. Honnêtement, là, je me suis réservé une semaine en juillet pour moi puis ma conjointe, puis je dis à mon équipe, vous bookez rien là, parce que ma conjointe...
On s'en va.
Ouais, on s'en va. On prend une semaine de vacances, puis c'est dur prendre une semaine de vacances. Les gens pensent, OK, vous êtes plus à Toronto.
Non, ça l'a compris. Non, donc, c'est ça, puis on va te voir dans toutes les activités aussi, parce que je sais que tu es présent
exact.
À peu près partout.
Exact.
Donc, bel été.
Absolument.
On va se rejaser, j'imagine.
Ben oui, sûrement.
On va se rebooker un rendez-vous pour parler peut-être à la fin de l'été, là.
Absolument.
Faire le tour de ce que tu auras fait. Stéphane Sarrazin, il est député provincial de Glengarry Prescott Russell. Un grand merci pour ton temps encore une fois. 8h07!
Déjà.
C'est pas pire, hein? On a fait un petit bout avec toi.
Ben oui.
Super. Hey, je voulais juste dire,
oui, vas-y.
En fin de semaine, c'est le 150e de Saint-Albert
ben
avec
oui.
la grosse parade de la Saint-Jean-Baptiste. On a la fête du Canada qui s'en vient, donc on va célébrer ça, puis ça va être une bonne façon de partir l'été. Je pense que jusqu'à date, on a la température qui est de notre côté. Peut-être les gens ils ont trop souhaité de la belle température. Là, on parle du 40 degrés, donc...
Mais température
ça va
être
le fun de rencontrer les gens, absolument.
Donc, tu seras là dans ces activités-là.
Ah oui, partout.
Parfait. Hey, merci Stéphane pour son jazz.
Ça fait plaisir.